Bonsoir à toutes et à tous. Alors qu'une 7e journée d'action interprofessionnelle de grève est organisée aujourd'hui partout en France, le projet de réforme des retraites a été présenté officiellement en Conseil des ministres ce matin. Un projet de loi organique, un autre ordinaire ont été détaillés, ce qui permet désormais au gouvernement d'envisager le début du processus parlementaire. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Vous avez reçu et lu pour nous, décortiqué pour nous les textes sur lesquels les députés et sénateurs vont maintenant pouvoir travailler.
Oui, ces textes qui instaurent le futur régime par points qui va se substituer aux 42 régimes de retraite existants. Le projet de loi ordinaire, composé de 65 articles, acte donc la suppression des régimes spéciaux, SNCF, RATP, EDF ou encore Opéra de Paris, la fin aussi des régimes complémentaires. Alors les personnes nées en 2004 et après entreront d'emblée dans le nouveau régime en 2022. Celles nées en 1975 seront elles les premières concernées aussi dès 2025 et seront les premières à percevoir des pensions calculées selon le nouveau régime à partir de 2037. Un assuré se constituera un stock de points tout au long de sa vie professionnelle. Fini donc le calcul sur les 25 dernières meilleures années pour le secteur privé ou sur les 6 derniers mois pour la fonction publique. Mais pour compenser le manque à gagner pour les fonctionnaires, le texte prévoit de prendre en compte les primes dans le calcul des pensions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans ce texte, on trouve aussi des dispositions sur l'âge. L'âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans. Mais si l'âge pivot pour équilibrer le système en 2027 a été retiré pour satisfaire la CFDT, il reste bien inscrit dans la loi comme élément central de pilotage du système. Il s'appliquera à la génération 75 et au-delà avec son système de bonus-malus.
Beaucoup d'informations, Anne-Laure. Néanmoins, en ce qui concerne cette réforme des retraites, il reste nombre de questions, d'éléments à déterminer, de chiffres à fixer, de curseurs à placer.
Oui, d'abord, quelles mesures prendre pour équilibrer le régime à horizon 2027? La conférence de financement inaugurée jeudi prochain devra faire des propositions d'ici la fin avril. Mais le projet de loi précise bien que les partenaires sociaux ne pourront s'accorder sur une baisse des pensions ou une hausse du coût du travail. En tout cas, leurs recommandations pourront être inscrites dans la loi, mais le gouvernement garde la main pour prendre les mesures qu'il souhaite en vue d'assurer cet équilibre. Autre question très importante, la valeur du point. Elle sera fixée avant le 30 juin 2021 par la future Caisse nationale de retraite universelle gérée par les partenaires sociaux. Mais s'il n'y avait pas d'accord, là aussi, l'État pourrait reprendre la main. Seule condition déjà fixée, la valeur du point ne pourra pas baisser. Et puis il y a encore un certain nombre de discussions en cours avec les partenaires sociaux qui pourront être intégrées lors de la discussion parlementaire. Celles notamment conduites sur la pénibilité, la question de l'emploi des seniors ou encore le montant de la pension minimum. Aujourd'hui, elle est fixée à 85% du SMIC. C'est nouveau d'ailleurs, mais les syndicats et notamment la CFDT espèrent obtenir davantage.
Merci Anne-Laure Jumet. Début de l'examen de la réforme des retraites en séance publique à l'Assemblée nationale le 17 février. En attendant la mobilisation va continuer. Une 8e journée de manifestation a d'ores et déjà été annoncée pour mercredi prochain, alors que la CGT estime qu'1 300 000 personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues. L'agence France Presse, dans un décompte provisoire, estime que 127 000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans une soixantaine de villes hors Paris. Bonsoir Anne Fauconberg.
Bonsoir.
Vous étiez au Palais de l'Élysée ce matin à l'issue d'un conseil des ministres pendant lequel le président de la République, Emmanuel Macron, s'est montré très offensif sur ce dossier des retraites.
Ah oui, d'après les propos rapportés par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, Emmanuel Macron a dénoncé les actes de violence et la radicalité de certains blocages contre la réforme des retraites. Le chef de l'État a même appelé à la plus grande fermeté à l'égard de leurs auteurs. La haine de l'autre, l'intimidation de l'autre au prétexte d'une divergence, qu'elle soit politique ou syndicale, ne peuvent en aucun cas être acceptables, a-t-il précisé. Des propos dans la droite veine de ceux d'hier dans l'avion qui leur amenait d'Israël. Emmanuel Macron s'était emporté contre les discours politiques extraordinairement coupables, ces discours qui affirment que la France est devenue une dictature. Le chef de l'État qui se garde bien de nommer quiconque, mais qui vise en creux les syndicats les plus radicaux et les partis de gauche comme la France insoumise, ce qui n'a d'ailleurs pas échappé à son chef de file, Jean-Luc Mélenchon. Il a réagi à la télévision. Le parlementaire accuse Emmanuel Macron d'être le seul responsable de toute la violence. Violence qu'il a créée, précise-t-il, par un projet de réforme qui est sans objet. On pourrait dénoncer également la violence des propos du chef de l'État. A également réagi Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Et puis comme une mise en abîme de ce décalage entre Emmanuel Macron et le pays, même le syndicat des cadres, la CFE-CGC, dit espérer que la démocratie reprendra un peu ses droits à l'occasion du débat parlementaire et des amendements. C'est le souhait en tout cas de son président François Omeril. Mais dans ce moment Où la défiance est exacerbée, le locataire de l'Élysée a préféré marquer son territoire et signifier que sa réforme se fera même contre une partie des citoyens.
Merci Anne Fauquemberg. À l'étranger, en Chine, un nouveau bilan ce vendredi de l'épidémie en cours liée au coronavirus 2019 nCoV. On compte désormais 26 morts et 830 personnes contaminées, dont 177 jugées gravement atteintes. Les autorités chinoises ont intensifié leurs efforts pour contenir la propagation de ce virus avec le confinement de plus de 40 millions de personnes. Demain, de nombreuses festivités liées au nouvel an lunaire ont été annulées. Pour ce qui est de l'Union européenne, pour l'instant, aucun cas n'a été diagnostiqué, d'après la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Néanmoins, à Bordeaux, un patient suspecté du coronavirus est actuellement hospitalisé dans l'attente de diagnostics précis. Le mathématicien turc enseignant en France, Tuna Altinel, a été acquitté aujourd'hui par le tribunal de Balikesir dans le nord-ouest de la Turquie. Ce maître de conférence à l'université Claude Bernard de Lyon était accusé de propagande terroriste pour avoir participé l'an dernier à la réunion d'une amicale kurde. Le passeport de Tuna Altinel devrait maintenant pouvoir lui être rendu par les autorités turques. En Irak, une importante manifestation aujourd'hui contre la présence militaire américaine dans le pays. Des milliers de manifestants ont répondu à l'appel du leader chiite Moqtada Sadr, qui la semaine dernière avait appelé à répondre à l'élimination à Bagdad début janvier du général iranien Qassem Soleimani. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
L'objectif de Moqtada Sadr, c'était de réunir 1 million de personnes dans les rues. C'était évidemment pour lui une façon de tester sa popularité. Visiblement, on est loin du million. Hein, Claude.
Alors, la journée n'est pas terminée, hein, Benoît, et les images restent impressionnantes. Mais c'est vrai qu'il est difficile de mesurer si cette millionnaire réclamée par Moqtada Sadr peut faire ou pas basculer la révolution irakienne. De fait, c'est vrai que Moqtada Sadr, c'est probablement la figure la plus fédératrice d'Irak avec l'ayatollah Sistani. C'est d'abord celui qui incarne et depuis longtemps la résistance anti-américaine, puisque c'est sa milice qui a combattu les troupes américaines entre 2003 et 2011. C'est aussi lui qui cherche à incarner l'image d'un chiisme irakien débarrassé des influences étrangères. C'est un fin populiste, un homme qui sent vraiment la rue, un homme très puissant. Et ce mouvement de contestation qui soulève l'Irak depuis octobre, il l'a évidemment appuyé. Mais une part importante de la rue, et notamment les plus jeunes, se méfie de cet animal politique qui semble jouer sur plusieurs tableaux en s'étant rapproché ces dernières années de l'Arabie Saoudite, puis à nouveau de l'Iran. Or, ces ambiguïtés, ce jeu politique, c'est entre autres ce dont ne veut plus cette jeunesse irakienne qui veut faire table rase du passé, une jeunesse qui veut la fin du Nizam. Le Nizam, c'est le système, ce système qui est mélange de corruption, de ruse, de compromis politique. Ce Nizam qu'on rend responsable de la situation du pays. Alors, le bloc de contestation continue de réclamer des élections anticipées, la fin de la corruption, un premier ministre indépendant et la fin de l'ingérence iranienne. Or, à la tribune tout à l'heure, Moqtada Sadr a continué, lui, à concentrer son discours sur une seule chose, le départ des troupes américaines. Alors qu'il est, Benoît, la manifestation continue sans débordement, mais à Bagdad et dans la région, chacun est bien conscient que l'issue et la taille de ce rassemblement pourraient à nouveau faire basculer la situation.
Claude Guibal. L'association française SOS Chrétiens d'Orient annonce être sans nouvelles de 4 de ses collaborateurs, justement en Irak. 3 Français et leur accompagnateur irakien sont portés disparus. D'après l'association, les circonstances de cette disparition ne sont pour l'instant pas éclaircies. À Alger, toujours plusieurs milliers de manifestants aujourd'hui pour le Hirak. Malgré une mobilisation plus faible ces dernières semaines, la détermination des manifestants reste entière à l'approche du 22 février, qui marquera le premier anniversaire de ce mouvement de contestation contre le pouvoir en place. 6 personnes tuées, 2 autres grièvement blessées en Allemagne à la mi-journée dans une fusillade qui s'est produite dans la commune de Rot Amsé dans le sud-ouest. Le tueur a été interpellé par les enquêteurs qui évoquent la piste d'un différend familial. Toutes les victimes appartenaient effectivement, visiblement, à la même famille et à la famille du tireur. La météo pour demain, samedi, avant de refermer ce journal raccourci aujourd'hui, avec un ciel souvent couvert demain, quelques pluies à prévoir sur le Languedoc-Roussillon, en PACA, dans la vallée du Rhône, ainsi que sur l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera plus sec. Les températures minimales seront comprises au lever du jour entre moins 4 et 1 degré au nord, jusqu'à 10 degrés au sud. 18h10 sur France Culture. Très bonne soirée.